Comme cela a encore été démontré lors du confinement, le logement est le marqueur le plus criant des inégalités. Or, le logement social a une longue histoire en Belgique. Dès lors, quelle est sa situation actuelle et plus largement la situation du logement en Wallonie et à Bruxelles? Quels sont les futurs enjeux? Comment les politiques de logement peuvent réduire les inégalités? Un exposé de Philippe Defaite, ex-président du CPS de Namur et président de l'Institut pour le développement durable. Vous êtes le samedi 29 août 2020 à Jean Blou.
Voilà. Bonjour à tout le monde. Merci pour l'organisation et merci pour ce débat. Je vais effectivement centrer la présentation sur mon point de vue sur le logement social, point de vue qui est aussi celui d'un tout récent président d'une SLSP que je suis maintenant depuis un an. J'indiquerai aussi en fin de parcours de mon exposé deux, trois autres sujets. Et puis dans le débat, évidemment, les sujets abordés seront ceux que vous souhaitez. Je ne pense pas qu'il faut absolument centrer le débat uniquement sur la question du logement social, en tout cas au sens strict du mot. Alors ce que je vais vous dire va paraître peut-être un peu provocant. Ça l'est. Ça vient de la bouche d'un président de SLSP. Et je ne suis pas là pour tuer le système de l'intérieur. Je suis là pour le faire avancer. Parce que, très honnêtement, et quels que soient les ministres, quelles que soient les coalitions, sur le logement social, ça fait à peu près 20 ou 30 ans qu'on met le couvercle sur la casserole, en n'essayant pas trop d'aller voir ce qui fait bouillir la casserole, ni ce qu'il y a dans la casserole, et ça arrange un peu tout le monde. Ben, un jour, de toute façon, on va être confronté à des difficultés, ne serait-ce que parce qu'un jour, il faudra bien regarder comment les comptes de la SUL rentrent ou pas dans le périmètre de SEC 2010, et on aura d'une manière ou d'une autre, de toute façon, des retours de flamme. Dans un article qui va paraître, je pense au mois de septembre, dans la revue Écho du logement, qui est la revue de la DGOK, enfin ce qu'on appelait dans le temps la DGOK de logement, j'utilise des termes assez inhabituel pour analyser, faire un diagnostic concernant le logement social. J'utilise les termes loterie, bon, open bar, bon, hypocrisie. Et je vais essayer de vous montrer que ce n'est pas des mots que j'utilise comme ça pour le plaisir de provoquer, mais qu'il y a derrière ça une certaine analyse. Alors c'est évidemment une expression éculée, mais je pense vraiment que le logement social est à la croisée des chemins aujourd'hui pour quatre raisons. Le manque de logement, qui est global, mais qui est aussi à différencier en fonction de la zone géographique et du type de logement. Un important besoin de rénovation, malgré ce qui a été fait dans le passé. Et on va bien sûr, ce matin encore, mais aussi principalement cet après-midi, aborder la question du plan de rénovation du gouvernement wallon, de Pierre-Yves Dermagne. Mais je plaide beaucoup pour qu'on ne limite pas la réflexion sur la rénovation du logement social à la seule question énergétique. Ça étonne parfois, des interlocuteurs non-écolos ont tendance à dire « Ah, c'est formidable, Philippe, l'énergie, etc. » Oui, très bien, l'énergie. Mais il y a beaucoup d'autres choses à faire pour rénover notre parc de logement social. Je pense par exemple aux activités qu'il y a dans ces lieux, au cheminement, à la verdure, à des abris. Enfin, il y a plein de choses qu'il faut réfléchir. Trois, c'est le déséquilibre financier structurel de tout nouveau programme immobilier aux conditions actuelles, qui sont d'ailleurs celles des anciens programmes, puisqu'il n'y a pas vraiment de nouveaux programmes pour ajouter des logements. Donc ce qu'on parle beaucoup moins, c'est la rénovation. Mais tout nouveau logement ajouté, financé par les anciens programmes, augmente le déficit de la société publique concernée. Tout le monde le sait, mais on préfère ne pas regarder cela de trop près. Et alors, évidemment, les différences énormes entre SLSP. Mais les différences qui concernent beaucoup d'éléments. L'âge du parc, la structure, la localisation, le type de logement, la gestion plus ou moins dynamique de la SL, des équipes de la SLSP, le plus ou moins grand dynamisme, mais aussi les différences dans les revenus des locataires. Et il faut rappeler ici avec force qu'on n'a jamais voulu aborder de front en Wallonie un débat qui me semble important, potentiellement important, c'est une forme de péréquation financière entre les SLSP en fonction des différences du revenu moyen. Ça n'existe pas, on préfère ne pas en parler, et ceux qui ont des revenus moyens supérieurs à la moyenne sont très contents, et les autres, ils n'ont qu'à se débrouiller, ils n'ont qu'à augmenter leur déficit, et on va y revenir, tout ça passe auprès de la SUL sans trop de soucis. Tout ceci, ces quatre constats, font qu'effectivement aujourd'hui, l'accès à un certain type, un certain logement social est une loterie. Tout dépend de la région où vous êtes. Tout dépend de quel type de logement vous demandez. Il n'est pas rare aujourd'hui, j'en parlais encore avec notre commissaire, il n'est pas rare que dans certaines petites SLSP, ou en tout cas SLSP de zone rurale, il n'y ait personne sur la liste d'attente. Et vous avez un logement, PMR, ou un logement pour trois chambres, il n'y a personne sur la liste d'attente. Ce qui repose quand même la question. Et en même temps, vous allez dans d'autres zones où vous avez une très longue liste d'attente pour chaque logement, avec toutes les personnes qui ont beaucoup de points. Voilà, un déséquilibre. On n'a pas voulu aborder ça. Je comprends fort bien que des zones comme Charleroi et d'autres n'ont pas envie nécessairement d'ajouter encore du social au social, mais il faudra quand même un jour régler cette question de déséquilibre. L'accès est aussi une loterie dans la mesure où la demande n'est pas la même pour chaque type de logement. On sait aujourd'hui que le plus grand déséquilibre, c'est les petits logements. Pour donner une indication, dans mon SLSP, ma SLSP, 20% des logements sont des petits logements et 45% des demandes sont des logements pour des petits logements. Des demandes pour des petits logements. 20, 45. Donc il y a aussi, je sais bien, la question des ménages avec beaucoup d'enfants, mais je pense honnêtement que la question des logements, des petits logements, est centrale. Une fois que vous êtes passé au travers de cette difficulté, le logement qui vous est attribué est totalement attribué de manière totalement aléatoire. Pour les mêmes conditions, le même parcours dans votre demande, vous pouvez avoir un logement bien situé ou mal situé. Mal situé, je parle ici en termes d'accès à des services publics ou privés. Avec un excellent PEB ou un très mauvais PEB. Avec un ascenseur ou sans ascenseur. Avec ce qui est terrible aujourd'hui, je trouve inacceptable. Avec ou pas un système de chauffage. Vous imaginez, il y a des personnes qui arrivent dans un logement social, tout est installé, chauffage central ou peu importe le système, et des personnes en difficulté qui arrivent dans un logement où la première chose qu'elles doivent faire, c'est mettre un convecteur au gaz à leur compte. Je viens de le vivre avec une personne qu'on vient de mettre en logement, une personne sortant de prison. Vous imaginez une personne sortant de prison, elle a certainement eu l'occasion de songer à acheter un convecteur et à aller chercher un professionnel pour installer ce convecteur. Oui, mais ça veut dire, ça fait, avant de commencer, je sais pas, un convecteur, je n'ai plus exactement les chiffres en tête, les prix en tête, mais c'est quelques centaines d'euros, plus l'installation. Vous imaginez, et tout ça, on trouve ça normal. Donc, moi, je vois bien à Namur, vous avez des logements tout récents avec chaleur combinée, enfin production de chaleur et d'électricité combinée, réseau de chaleur, bien isolé, avec terrasse plein sud, et à 50 mètres, la même société a des logements qui datent d'une autre époque, mal isolés, sans terrasse, mal exposés, etc. Et en fait, c'est totalement aléatoire. Totalement aléatoire. Et donc un système qui consiste à dire tout le monde paie le même prix, toutes choses égales par ailleurs en termes de revenus évidemment, et finalement un système qui crée, à mon sens, beaucoup d'injustice. Alors évidemment, on peut refuser une première proposition, sans la justifier d'ailleurs, on n'a pas besoin d'apporter une justification. Au deuxième refus, en principe, vous êtes radié et vous devez recommencer, même si évidemment, les comités d'attribution peuvent estimer qu'il y a de bonnes raisons pour refuser une deuxième fois. Et là, alors, effectivement, on rentre alors dans une question qui est hyper délicate. Je pense que la plupart, l'immense majorité des comités d'attribution font bien leur travail, mais dès lors qu'il s'agit d'appréciation de conditions subjectives, il est clair qu'il doit y avoir des inégalités de traitement entre comités d'attribution pour accepter ou pas un second refus. Nous sommes maintenant devant un plan de rénovation, et je vais faire le lien avec ce que je viens de dire, et nous allons avoir effectivement un certain nombre de logements qui vont voir leur PEB, leur performance énergétique améliorée, mais pas de possibilité, à ce stade-ci en tout cas, c'est prévu par la DPR, on va y revenir, pas la possibilité aujourd'hui de différencier les loyers en fonction de la performance énergétique. Et je suppose qu'il y a quelques administrateurs ici, tout le monde a bien conscience que la mise en œuvre de ce plan de rénovation, malgré, je pense, le travail important et intéressant fait par le ministre, va détériorer les comptes de notre SLSP, hein, de nos SLSP. C'est-à-dire les 25% à notre charge dans le plan de rénovation n'ont pas de financement. Et donc, certaines sociétés vont voir leur situation favorable se dégrader, et les sociétés qui sont déjà aujourd'hui en déficit vont voir leur déficit augmenter. Il ne s'agit pas ici seulement d'une question d'équilibre des comptes des SLSP, il s'agit aussi ici d'une inéquité entre locataires. Hein ? Je veux dire, ce n'est pas normal que des locataires vont peut-être payer 25 euros ou 30 ou 40 euros pour leur charge de chauffage et d'autres vont en payer 100 avec les mêmes revenus, avec les mêmes conditions de revenus. Il y a vraiment un problème ici d'inéquité entre locataires. Donc il y a des inégalités entre ceux qui sont sur les listes d'attente et ceux qui ont un accès effectivement réel au logement social. Et une fois que vous êtes dedans, il y a plein d'inéquités. Alors comment est-ce que ça se passe devant ces constats? Comment est-ce que les SLSP gèrent? Peut-être que c'est un peu caricatural, mais ça va me permettre, j'espère, de faire avancer la réflexion. Je dirais qu'il y a deux grandes catégories des SLSP. Donc forcément, c'est caricatural de dire qu'il y a deux grandes catégories de SLSP, mais en gros, il y a quand même celles qui disent, qui sont souvent composées de gestionnaires, qui disent, attention, non, on ne peut pas mettre notre société en déséquilibre, ça ne va pas, le sens des responsabilités, etc. Et, autrement dit, ça veut dire qu'en principe, si vous avez ce genre d'attitude, vous devez renoncer à un certain nombre de programmes, parce que tout programme de nouveaux logements ou de rénovation déséquilibre vos comptes. Donc, la bonne gestion, entre guillemets, y est, mais ça ne répond pas à la question du manque de logements. Et l'autre attitude, c'est de dire, ben, allons-y. Hein. De toute façon, la SVL accepte les déficits. On ne va pas être plus catholique que le pape. Et donc, c'est ce que j'appelle la différence entre abstinence et open bar. C'est ça, finalement. Hein. Open bar, je continue mes programmes comme si de rien n'était, et tant mieux, ça c'est très bien pour le logement. Et de toute façon, il y a quelque part dans votre compte auprès de la SVL, vous avez un déficit qui s'accroît. Allez, je vais être très clair. Hein. Moi, je pense d'ailleurs que c'est une condition pour avoir un vrai débat sur les SLSP, c'est que les gens soient clairs, hein, et pas commencer à penser que ce sont des secrets qu'il ne faut pas éventer. Quand mon SLSP n'est pas en très bonne situation financière, on a beaucoup de réserves, mais les réserves ne sont pas là, de toute façon, ce n'est pas possible, ne sont pas là pour couvrir des déficits courants. Et donc, la première fois, au premier budget, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait ici? Ce qui n'est pas tant... Bon. Et puis, le commissaire a dit, mais non, ça va, il n'y a pas de souci. Hein. Mais c'est pas une solution tenable. C'est pas une solution tenable, ne serait-ce que parce que dans les faits, elle introduit des inégalités entre les SLSP. Parenthèse ici, attention, il ne s'agit pas non plus de couvrir des mauvaises gestions. Hein, parce que je sais bien qu'on a amélioré les choses, c'est une évidence. Il y a encore des SLSP qui sont plus ou moins gérés. Hein. Je vais vous donner un exemple absolument affolant. une SLSP, je ne citerai pas sa localisation, ni moins encore son nom, a décidé de couvrir entièrement la différence de salaire entre l'allocation de chômage temporaire et le loyer, le salaire normal. Autrement dit, dans une même société, vous avez des travailleurs qui ont accepté de continuer à travailler pour le salaire. D'autres ont dit non, on va prendre le chômage partiel et qu'ils reçoivent la même chose que les travailleurs qui ont travaillé à temps plein. Donc il y en a qui, même argent, même somme, pour les gens qui sont restés chez eux, bien peinards pendant 3 mois, et ceux qui ont accepté de rester sur le terrain. Je veux dire, des choses inacceptables. Ça, c'est vraiment de la... Les choses sont très claires, il y a encore des formes de clientélisme implicite ou explicite dans un certain nombre de SLSP. Donc ça, il ne s'agit pas de couvrir ça, mais la question des SLSP qui mènent une politique rigoureuse, qui gèrent bien leurs affaires, mais qui sont en déficit simplement parce que les conditions objectives amènent à augmenter les déficits, il va quand même falloir un jour affronter cela clairement et avoir un vrai débat autour de ça. Une réponse possible, à laquelle je crois beaucoup, c'est que on réfléchit trop logement social au sens strict du mot. C'est-à-dire les logements occupés par des revenus précaires qui ne peuvent pas dépenser plus de 20% de leurs revenus. Parenthèse, il y a aussi une réflexion à voir, mais je ne vais pas rentrer ici dans des choses un peu trop détaillées. Il y a aussi une réflexion à voir sur la manière dont on calcule le revenu imposable. Ça, vous allez me dire, c'est fait objectivement. Oui, c'est vrai. Ça, c'est l'extrait drôle. Mais la manière dont les services sociaux dans les SLSP ou ceux qui calculent le loyer dans les SLSP, il y a des marges d'interprétation. Voilà. Et ça, ces marges d'interprétation, je pense qu'il faudrait quand même, là aussi, les lever. Bon. On va être très concret, certaines sociétés tiennent compte ou ne tiennent pas compte du 13e mois. Et ça fait vite une différence pour tout le monde. Hein. Je ne me prononce pas sur quelle attitude, mais ça ne va pas d'avoir des interprétations qui sont parfois différentes. Hein. Voilà. Donc une possibilité à laquelle je crois beaucoup, c'est de construire des logements qui ne sont pas loués avec les règles habituelles du logement social pour les revenus précaires, donc les 20%, mais qui en quelque sorte proposent des loyers intermédiaires entre le loyer social et le loyer du marché. Alors en principe, on va vous dire, à juste titre, la loi et les décrets sont clairs, oui, une SUL peut agir comme promoteur public social. Donc je ne demande pas, moi, que les SUL fassent des programmes de villas, ce n'est pas l'objectif, mais entre les programmes de villa et des programmes de logements sociaux où on perd de l'argent chaque fois qu'on ajoute un logement, il y a un continuum. Et ce continuum, aujourd'hui, dans les faits, il est vide. En fait, dans les faits, vous avez théoriquement la possibilité de faire des logements à loyer intermédiaire. Concrètement, c'est extrêmement difficile de convaincre la SUL de se lancer dans ce genre de programme. Et vous allez avoir, d'une manière ou d'une autre, des difficultés à réaliser cela. Ça me semble dommage. Et je fais ici le lien avec un des éléments du diagnostic que je posais en début d'exposé. C'est les petits logements où le déficit est le plus important, le déficit quantitatif est le plus important, qualitatif aussi d'ailleurs en partie. Et c'est en même temps le secteur où il est le plus facile, économiquement parlant, de proposer des loyers intermédiaires qui équilibrent les comptes de la SLSP. Très concrètement aujourd'hui, j'isole bien sûr la question du foncier, et là aussi c'est un autre débat, il y a des sociétés aujourd'hui qui n'ont plus de foncier ou quasiment plus de foncier, et d'autres se trouvent devant des réserves foncières encore relativement importantes. Parenthèse, il faudra aussi un jour discuter, mais ça je pense que c'est l'intention du ministre Pierre-Yves Dermagne de discuter des réserves foncières de la SUL. Pour lesquels, je vous signale, il n'y a pas de cadastre. Ça, c'est une gestion hyper dynamique. Il n'y a pas de cadastre aujourd'hui des réserves foncières de la SVL.
Et je peux vous dire. Uniquement du logement.
Pardon ?
On a le cadastre uniquement du logement.
Oui, je parle des cadastres réserves foncières ici, je ne parle pas des logements. Donc les terrains qui sont propriétés, terrains constructibles en général, qui sont propriétés de la SVL. Hein, voilà. Je reviens donc. Honnêtement, si vous laissez le foncier de côté, vous pouvez aujourd'hui, économiquement, proposer des loyers pour des petits logements inférieurs à 400 euros par mois. Et avec des charges énergétiques très faibles, parce que vous, pour ce prix-là, pour ce prix économique-là, vous pouvez avoir des logements très bien isolés. Voilà, mon SLSP, en tout cas, je pense qu'il y a un consensus dans mon SLSP pour faire ce genre de logement, ne serait-ce que comme logement tampon pour des personnes qui sont inscrites sur les listes d'attente et en attendant d'avoir un logement social au sens propre et complet du terme, avoir au moins un logement de qualité nettement moins cher que ce qu'ils paieraient sur le secteur locatif privé. Parce que c'est pour ça que j'insistais à l'instant sur l'aspect qualitatif des petits logements. C'est aussi, en moyenne, les logements qui sont les moins bons dans le secteur locatif privé. Hein, on a souvent des petits logements, des logements avec peu lumineux, mal situés, avec des communs inexistants ou crado. Enfin, je veux dire, il y a vraiment là un effort. Il faut juste débloquer les choses pour que demain, au lieu de ralentir ou de poser des questions ou de vous embêter sur le plan administratif, la SUL dise « je soutiens cette politique ». Je la soutiens explicitement, je ne sais pas de la tolérer, je la soutiens. Voilà. Et ça, là on peut commencer. Et je rappelle quand même qu'une des plus anciennes argumentations en matière sociale, c'est aussi de permettre un équilibre sur le marché des loyers. Mais aux conditions actuelles, excusez-moi, désolé, en matière pour les petits logements, le logement public ne pèse en rien sur le marché. Par contre, si demain on devait augmenter significativement les constructions ou les programmes de SLSP dans ce domaine-là, je pense qu'on pourrait améliorer significativement les choses, en tout cas. Enfin, je veux dire, ce qu'il faut faire. Alors, évidemment, allez, on va être clair ici. Je vais rester sur la ligne que j'ai choisie aujourd'hui, on va être clair. Bon, certains progressistes n'aiment pas d'entendre parler de ça. Logement social, ça doit être du 20%. Voilà, c'est tout, c'est 20%. Et résultat des courses, la liste d'attente ne change pas, n'a pas bougé depuis 10 ans. Et encore, je pense honnêtement que cette liste d'attente ne reflète pas la totalité des gens qui auraient droit à un logement social. Hein ? Parce que soit ils ont quand même trouvé d'autres solutions, soit parce qu'effectivement, et en toute objectivité, moi je comprends qu'il y ait des gens qui n'ont pas envie de certains logements SLSP. Hein ? Excusez-moi, hein ? Y a de tout dans nos SLSP, hérité de l'histoire. Hein ? Y a des logements qui ne sont pas dignes, en fait, je trouve, d'être mis en location. Et je comprends, il faut bien qu'il y ait des gens qui n'aient pas envie de se retrouver dans certains types de logements, voire dans certains types de quartiers, ce qui pose alors d'autres questions, mais dans lesquelles je ne m'embarquerai pas, en tout cas dans l'exposé introductif. Donc je crois très fort qu'il faut essayer d'éviter que le secteur de SLSP se cantonne dans cette logique de logements sociaux au sens 20% pour les précaires. Nous devons être plus que jamais des promoteurs publics sociaux, mais où notre mission ne se limite pas à comment est-ce qu'on va rénover et augmenter le stock de logements où on peut demander que 20%. Tant mieux pour les personnes concernées. Mais je pense qu'il y a une question d'équité globale qui doit ici être abordée de front. Donc je plaide pour ce rôle, mais pas seulement toléré par la SVL, mais soutenu par la SVL. Pierre-Yves Dermagn a demandé une étude juridique, hein, parce qu'effectivement, il y a des règles européennes qui compliquent un peu les choses. Donc ici, soyons intellectuellement honnêtes, ce n'est pas que la SVL qui n'a pas envie d'avoir ce genre de logement. Elle a aussi des arguments juridiques qui tiennent la route, mais auxquels je pense qu'on peut répondre. Il faut nous laisser beaucoup plus d'autonomie On doit arrêter cette hypocrisie qui consiste à nous demander d'étoffer ou de rénover notre parc avec comme conséquence d'aggraver la situation financière de nos SLSP. Ce n'est pas tenable à terme. On peut continuer à le faire, hein. Moi, je n'ai pas de souci. Waouh. Hop, déficit. L'année prochaine, mon déficit, c'est 50 000 euros en plus. Hop, pas de souci. La SUL, c'est couvert, et puis on attend. Donc, ça ne va pas. Hein. Et alors, évidemment, c'est la partie la plus délicate de ce que je veux dire, évidemment, comme conclusion. Il faut, évidemment, mais ça, je pense qu'il n'y a pas l'ombre d'un doute de la volonté du ministre, de faire sauter le verrou pour les loyers chauds. On appelle loyer chaud un loyer qui tient compte des charges énergétiques. Donc, autrement dit, un même revenu, un même type de ménage, un même logement, ne paierait pas le même loyer en fonction de sa performance énergétique, ce qui serait plus favorable aux aspects financiers de la SLSP. Mais j'insiste bien, si j'insiste sur les aspects financiers pour la SLSP, c'est pas pour qu'on puisse avoir le plaisir de présenter des comptes positifs, c'est surtout pour avoir des moyens pour faire des politiques. Hein? Parce que moi, avec un déficit, je suis réduit dans les possibilités de mener à bien d'autres politiques, même si je suis intimement persuadé que, dans les conditions dans lesquelles je les ai définies à l'instant, des politiques de logements, de petits logements, ne déséquilibrent pas les comptes. On peut avoir un équilibre. On peut avoir un équilibre. Hein? Et alors, ça, c'est la partie vraiment la plus difficile. Mais je pense qu'on ne peut pas continuer à vivre en demandant le même loyer, quelles que soient les caractéristiques du logement. Voilà. Il y a des avantages qui, d'une manière ou d'une autre, doivent être incorporés. Alors je ne dis pas qu'il faut arriver à 40 ou 50% du loyer. Évidemment, ça n'a pas de sens. Sinon, le logement social perd toute justification. Mais je pense qu'il faut ouvrir ce débat-là. Je rappelle que c'est comme ça, pour autant que on me l'ait bien expliqué et que je l'ai bien compris, que fonctionne un peu le système français. Il y a des différences de loyer liées aux caractéristiques propres du logement, comme d'ailleurs dans le secteur privé, il y a des différences de loyer liées à des choses objectives, localisation, présence ou pas d'un balcon, enfin des tas de choses comme ça, nombre de salles de bain, etc. Bon, voilà. Mais il y a évidemment une aide importante, qui, parenthèse d'ailleurs, est plus importante qu'en Belgique, pour compenser tout ou partie du loyer pour les personnes à petits revenus. Je voudrais encore évoquer deux choses, toujours dans l'idée d'ouvrir le débat, en sachant que les deux questions que je vais aborder maintenant sont au moins aussi touchy que d'autres que j'ai déjà abordées. Il y a une question que les gens sur le terrain ne peuvent plus éluder aujourd'hui, c'est l'augmentation des impayés et l'augmentation du nombre de locataires qu'on va qualifier de manière respectueuse d'indélicats. D'indélicats, bon. Alors, avec des questions qui se posent, j'ai assisté au dernier comité d'attribution de ma SLSP. Comment est-ce qu'on gère aujourd'hui une demande de mutation d'un ménage qui a démoli son logement et ne paie pas son loyer? Bon, alors on peut faire semblant, oui, bon, ok, on ne regarde pas. C'est une question terrible, hein, parce que c'est une question qui est en fait généralisée dans le secteur social. Comment gère-t-on les situations extrêmes qui deviennent de plus en plus nombreuses, hein? Pas seulement dans le logement. Hein, d'une manière générale, hein, les gens qui disjonctent, les problèmes d'assuétude, les problèmes psychiatriques, etc., et qui se combinent parfois, en plus, avec des situations sociales, notamment dans les... Mais comment est-ce qu'on gère ça? Aujourd'hui, par exemple, pour être clair, on ne peut pas refuser une mutation. Quelle que soit l'ardoise que laisse le ménage qui a demandé une mutation, on ne peut pas refuser une mutation si la personne, évidemment, est dans les conditions et dans le bon ordre de la liste des mutations. Bon, voilà. Ça, c'est le genre de questions. Donc, mais au-delà de cela, donc, attention, en disant ça, je ne voudrais pas faire croire que c'est le principal problème aujourd'hui. Je dis simplement, nous aussi, nous sommes confrontés à l'augmentation des situations extrêmes pour lesquelles nous ne sommes pas équipés. Ni psychologiquement, ni socialement, nous ne sommes pas équipés. Et j'insiste, c'est un débat qui dépasse de loin le logement social. Simplement, il se fait que dans certains cas, le débat se concrétise dans un logement social. Et alors, la deuxième chose, le deuxième point, et puis je vais passer à un autre sujet, si j'ai encore un peu de temps. Je vous avoue que j'ai été très surpris, je n'ai pas cru d'abord, de constater que les normes de salubrité, et en particulier pour ce qui concerne la taille des logements, n'est pas la même dans le secteur privé et dans le secteur public. J'aimerais un jour, si j'avais le temps, j'aimerais un jour aller voir quelle est la ratio légiste de cette différence. Alors pas seulement, de nouveau, pour réfléchir en termes d'équité, je me demande vraiment pourquoi la surface nécessaire dans le secteur privé, supposée nécessaire, supposée minimale, est moindre que dans le logement public. Je voudrais quand même qu'on m'explique. Mais parce que, chose très concrète, difficulté très concrète devant laquelle notre SLSP se trouve, comment est-ce qu'on gère un programme associatif public avec des normes différentes ? Bon, voilà. Parenthèse, dans une vie antérieure, j'ai eu le même problème avec la résidence service social, où on dépendait de deux ordres juridiques, l'ordre juridique des résidences services et l'ordre juridique des logements sociaux, puisque l'idée d'une résidence service social, c'est de fusionner les deux modèles, eh bien, on se trouvait avec plein de difficultés, simplement parce que les normes ne sont pas les mêmes. Nombre d'incendie, nombre de sécurité, la largeur des couloirs, etc. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on va quand même un petit peu mettre de l'ordre. Donc, j'insiste. Donc, c'est toujours ça, le problème. En Wallonie, on nous envoie des tas de messages positifs. Il faut faire des partenariats. Moi, je suis intimement convaincu que les SLSP namuroises, c'est la mienne en particulier, on doit travailler avec l'associatif. Il y a des tas de choses qu'on peut faire ensemble. Je pense par exemple à toutes les structures d'accueil comme les trois portes, etc. Mais qu'on nous mette dans les conditions pour que ce genre de choses soit possible, qu'il ne faille pas réunir, je sais pas moi, 30 personnes pour savoir comment on va gérer un projet en particulier. Voilà. Très rapidement maintenant. Ah oui, encore deux, trois choses. Oui, c'est ça. Très rapidement. Donc, un petit mot sur la politique des logements inoccupés. On en parlait juste avant le débat ici. Il ne faut pas grand-chose pour compléter le dispositif. En fait, c'est absolument incroyable. Nous avons une des législations les plus progressistes en Europe en matière de lutte contre les logements inoccupés. Honnêtement. Le problème, c'est qu'il faut l'activer. Alors, il y a deux difficultés majeures ici. Il manque une pièce du puzzle au point de vue légal. C'est un arrêté, du gouvernement, qui doit déterminer les seuils de consommation électrique et ou d'eau qui donnent une présomption d'inoccupation. J'insiste bien, présomption. Aujourd'hui, il y a des tas de gens qui ont une consommation électrique nulle, simplement parce qu'ils ont des panneaux solaires. Mais donc, une présomption, ça, il manque. Cette pièce, elle doit être, elle est censée être... Furlan avait déjà promis ça. Bon, de toute façon, Furlan a promis beaucoup de choses. Soit. Mais je voudrais bien que... C'est explicitement dans la DPR, Valérie, tu le sais bien. Je voudrais bien qu'on mette ça en œuvre. Mais je pense qu'il ne faut pas se réfugier ou prendre comme prétexte ce manque, cette dernière pièce du puzzle qui manque. En fait, la vraie difficulté, c'est que la lutte contre les logements inoccupés, elle ne marche que si vous avez un fonctionnaire communal qui pense, qui comprend ce qu'il fait, qui est intéressé par ce qu'il fait, qui est mobilisé par ce qu'il fait, parce que s'il y a bien un domaine où la clé de la réussite, c'est de tenir les gens à la culotte, de dire, deux mois, hop, on envoie un courrier, on va voir... On envoie un courrier. On demande au bourgmestre d'envoyer un courrier au président ou à la présidente du CPS. Etc. Donc c'est vraiment, il faut, et je pense aussi, et je pense aussi aux équipes populaires qui font du travail, et le MOC, etc., sur ces questions-là, il faut aussi travailler avec l'associatif. Voilà. Donc je veux dire, oui, il y a une dernière pièce du puzzle qui manque, et je pense que Pierre-Yves va la mettre dans le puzzle, mais il faut aussi réfléchir à la manière ou sur le terrain. Voilà. Troisième chose que je voulais dire sur ces logements inoccupés, je pense que progressivement les acteurs ont compris, et en particulier les acteurs de gauche, l'objectif premier de la lutte contre les logements inoccupés n'est pas de prendre en gestion. L'objectif, oui, dans certains cas, on peut avoir une réelle opportunité. Je ne sais pas, vous avez un logement inoccupé à côté de tel lieu ou à côté d'un parc de logements publics, etc. Ça peut être intéressant, mais ça ne doit pas être l'objectif. L'objectif, c'est de remettre des biens sur le marché. Hein? Voilà. Je vais peut-être paraître économiste en disant ça, un peu trop économiste et pas très social, mais s'il y a bien un domaine où les règles de l'économie fonctionnent, c'est bien celui du logement. Hein? L'offre et la demande, des équilibres, excusez-moi, ça fonctionne sur le marché du logement. Donc, voilà. Donc, c'est, remettre des biens sur le logement, ça ne peut. D'abord, c'est bien de ne pas avoir des logements abandonnés, hein, qui sont parfois des chantres. Mais pourquoi je pense qu'il ne faut pas partir de l'idée. Parce que c'est, partir de cette idée refroidit des gens. Moi, je comprends que des bourgmestres ou des échevins des finances ou des présidents ou présidentes de CPS soient réticents. Non, on va pas trop lutter contre les logements inoccupés parce qu'on est effectivement financièrement incapable de prendre en gestion. Hein? Mais c'est parce que, en plus, dans beaucoup de cas, ces logements inoccupés, c'est des trous, hein? C'est des chancres, c'est des vieux logements. Enfin, je veux dire, j'ai été voir certains logements inoccupés dans la région de Charleroi. Je peux vous dire, il vaut mieux démolir, hein? Et surtout pas que. Il faut, en fait, obliger le propriétaire à vendre, hein? Et pas absolument prendre en gestion. Voilà. Voilà, mais je pense que j'ai à peu près dit tout ce que j'avais envie de dire. Il me semble que c'est assez. Après, il y a des tas de sujets. Hein. Le logement ne se limite pas ni à la lutte contre les logements. C'est quand même encore un dernier point où là, il est intéressant d'avoir un vrai partenariat entre public et associatif. C'est la possibilité d'activer l'article 132 du Code du logement, c'est-à-dire la possibilité pour des organismes reconnus de prendre en gestion un logement du parc public. Donc il y a une série de débats autour de ça. Donc je pense que c'est un excellent outil. Et à titre associatif personnel, je l'utilise dans une association que je préside. C'est un excellent outil, mais qui mérite aussi une réflexion globale. Alors, il ne faut pas que ça devienne un outil. Soyons clairs, pour contourner systématiquement les règles d'attribution. Hein? Bon, sinon, enfin, je veux dire, on va pas mettre 20% du parc en article 132. On perd, en tout cas, il y a un déséquilibre entre la réalité et l'objet social d'une SLSP. Mais je pense qu'il y a un réel débat à avoir. J'ai eu l'occasion d'avoir cette discussion hier avec le ministre de Logement. Je lui ai dit, je pense que ce serait plus clair que les SLSP sachent dans quelles règles elles jouent. Par exemple, je sais pas moi, vous pouvez mettre 5% de votre parc en article 132, d'avoir une réflexion politique au sein du conseil d'administration et du comité d'attribution sur quel est le sens de cet article 132 et d'avoir avec, sur cette base-là, un dialogue, une action opérationnelle avec le secteur associatif qui méconnaît très largement ce dispositif. Enfin, je suis étonné de voir le peu de connaissances de ce dispositif. En plus, il peut parfois être intéressant pour tout le monde, y compris pour la SLSP. Par exemple, quand vous pouvez mettre en article 132 un logement qui, provisoirement, n'est pas louable en fonction des règles SLSP, mais qui est louable en fonction d'autres règles, il y a une vraie réflexion. On pourrait aussi, un instant, je parlais tout à l'heure des logements inoccupés, parler aussi des logements inoccupés dans les SLSP. Il y en a plus qu'on veut bien le dire. Et j'ai toujours trouvé inacceptable. Ça, c'est Furlan qui a absolument mis un veto absolu là-dessus, que toutes les réflexions sur les logements inoccupés se limitent au logement privé. Désolé, je veux dire, la question, on pourrait très bien aussi avoir une réflexion. Alors, il ne s'agit pas de nouveau de chasser les gens, de poursuivre les gens, il ne s'agit pas de dénoncer les gens à l'ONEM, au Forum ou n'importe quoi. Mais c'était inacceptable, avec des telles listes d'attente, qu'il y ait des logements qui sont des logements fictifs. Bon, on le sait bien. là de nouveau, mais ça on préfère ne pas regarder, jusqu'au jour où un jour on est quand même bien obligé de constater, ou bien, je ne sais pas, mais il y a un incendie, on constate qu'il n'y a personne, ou la consommation d'eau est zéro, mais il n'y a pas de raison. Et moi, je sais bien, ça peut paraître un peu naïf, un peu banal, mais je trouve que les lobbies des locataires privés, des propriétaires privés, ont raison de dire que dans toute la politique du logement, le secteur public doit montrer l'exemple. Et qu'un logement inoccupé dans le secteur public est tout aussi inadmissible qu'un logement inoccupé dans le secteur privé. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'insiste, je n'ai pas prétendu, d'ailleurs ce n'est pas le cahier des charges, faire le tour de toute la politique du logement. Il y a encore, on pourrait parler de l'allocation loyer, on pourrait encore parler de tas de choses, mais voilà quelques indications qui sont d'abord celles d'un praticien de terrain, hein, à la fois de mon expérience passée de président de CPS et maintenant d'administrateur dans une SLSP.
Vous étiez à Jean Blou le samedi 29 août 2020 et vous écoutiez Philippe Defeit, ex-président du CPS de Namur et président de l'Institut du développement durable.